faisait chanter la batterie et on avait l'impression qu'il jouait des notes. Et moi, j'ai toujours essayé de parler du côté clavier de la batterie.
Moi, je suis admiratif avec tous ces jeunes qui jouent de la batterie. C'est incroyable. Tu dis, mais comment ils font? Ils ont 20 bras.
L'indépendance, c'est d'arriver à jouer des noirs, des blanches, des triolets, mais en coordination avec des sonorités différentes.
C'est une histoire magnifique, vraiment. De prendre une grosse caisse, la poser par terre, de prendre une chaise et d'inventer un système de pédales et de mettre le tambour sur un pied, puis de s'asseoir et de jouer avec un pied.
La vraie énergie, elle est contenue, elle est dans un coup qui n'existe pas. Tu vois ?
Le batteur est en fait un homme orchestre.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver en direct sur France Culture pour une émission toujours libre de toutes les formes, de toutes les explorations, de tous les rythmes surtout. Une émission qui explore toujours l'histoire d'un genre ou d'un motif musical, ou celle d'un instrument. Ce dimanche, cette émission sera résolument rythmique. Une heure de radio sur la musique, et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. Sous le patronage de John Henry Bonham, dit Bonzo, le batteur mythique du groupe Led Zeppelin, et son solo enflammé dans Moby Dick, morceau le plus célèbre du groupe, sans doute, qu'il a évidemment initié, que l'on va se placer aujourd'hui. Pour continuer notre série dédiée aux instruments, on a déjà parlé de la trompette, de l'orgue, du basson ou de la clarinette dans la série musicale. Et on s'attaque modestement aujourd'hui à l'un des instruments justement les plus modestes, mais ô combien central de la musique moderne, la batterie. Un instrument en fait qui n'en est pas un, bien sûr, mais qui est en réalité un système d'instruments. Il est pratiqué par des figures de musiciens et de musiciennes qui sont le plus souvent assez discrètes, voire hyper modestes. Et alors qu'on leur doit sans doute certaines des évolutions majeures de la musique du XXe siècle, tout genre confondu, car évidemment, au commencement de tout, au commencement notamment en musique, on le sait, il y a évidemment le rythme. Formalisé au début du siècle, quelque part dans la Nouvelle-Orléans, la batterie moderne est évidemment la récipiendaire d'une tradition millénaire percussive, sur laquelle il est impossible de revenir intégralement en une heure. Mais elle a su, en un siècle, écrire son histoire. Et quelle histoire ! Des batteries rudimentaires qu'on appelait alors jazz et qui vont donner naissance au genre éponyme au début du XXe siècle, aux batteries hyper préparées d'un Terry Bozzio, en passant par les batteries créatives du rock, voire du hard rock. L'histoire de la batterie, c'est bien les batteurs et la batteuse qui la font. Galerie de portraits bien évidemment non exhaustive et plus que jamais subjective sur France Culture. Dreams of Drummers, au commencement était le rythme, c'est tout de suite dans la série musicale. Thank you. Live, petit chef-d'œuvre né de la rencontre de l'association de l'un des plus grands maîtres de la kora, Foda Moussa Sousso, et de Jack de Jonette, que vous connaissez sans doute dans un autre registre, puisque c'est un illustre batteur de jazz, connu et reconnu comme l'un des meilleurs du siècle, les plus créatifs et plus importants de l'histoire de ce très jeune instrument, notamment pour sa collaboration avec Miles Davis dans l'album qui signe finalement l'acte de naissance du free jazz, l'immense, l'inénarrable Beaches Brew, qu'on a déjà beaucoup joué dans cette série musicale. Ce morceau est un assez bon point d'entrée pour comprendre de quoi on parle quand on parle de batterie. L'instrument est sans doute l'un des plus jeunes instruments que l'on joue aujourd'hui dans la musique moderne, mais c'est aussi celui qui se rattache aux traditions les plus immémorielles de l'histoire de la musique, car évidemment, au commencement de tout, il y avait le rythme et donc la percussion. Et la batterie moderne, quand elle naît et quand elle se formalise en Amérique du Nord, pays de migrants par excellence, au tournant du XXe siècle, est l'héritière de cette tradition. La batterie, c'est en fait un peu une auberge espagnole, un monde en soi, un système qui bénéficie et raconte le croisement de plusieurs mondes. Et c'est exactement ce que veut faire entendre Jack de Jonette dans ce dialogue où, sous la kora de Foda Moussa Sousso, les tambours traditionnels de Gambie finissent par passer le relais à la batterie moderne qui prend au cours de ce morceau fleuve une place de plus en plus importante. Car c'est bien à la Nouvelle-Orléans que les percussionnistes des brass bands, qui viennent tous évidemment de la communauté noire, les brass bands, ces fanfares essentiels dans ce monde du sud des États-Unis, ce sont eux qui inventent la batterie moderne, qu'on appelait à l'origine des trap kits. Trap, c'est la réduction du terme contraption, qui veut dire machin, bidule. Ça désigne à l'époque les systèmes que ces percussionnistes bricolent pour pouvoir impressionner lors des compétitions où s'affrontent les brass bands, justement. Compétition qu'on appelle les counting contests. Compétition au cours de laquelle on invente une manière de bricoler pour pouvoir jouer le plus d'instruments en même temps. Ces trap kits sont ensuite surnommés les jazz, littéralement cellules d'énergie. On y trouve au début, dans sa version la plus rudimentaire, la grosse caisse, la caisse claire et évidemment les cymbales. Et bientôt les toms, ce sont des tambours directement issus des tambours africains ou amérindiens. La caisse claire, qui elle vient plutôt de la longue tradition militaire européenne, et les cymbales, dont les origines remontent à la nuit des temps. On en trouve aussi bien dans les premières musiques annotées de Turquie ou de Chine. En fait, c'est l'assemblage de tous ces instruments, mais surtout la possibilité de les jouer par un seul homme, grâce notamment à l'introduction des pédales, que le batteur devient un homme orchestre. Il joue le rythme, comme le démontre, nous l'explique et nous le fait entendre le brillant batteur et historien de la musique George Pachinski dans une émission géniale, La batterie à fleur de peau, c'était sur France Culture en 1992.
Il faut dire que là où nous en sommes actuellement dans l'histoire, les quatre membres sont sollicités. Il y a donc le tempo sur la cymbale, la grosse caisse marquée très légèrement pour Kenny, très piano, donc tous les temps, très très légèrement, de temps en temps syncopé comme nous l'avons vu, la caisse claire qui joue aussi un autre rythme, et la charleston qui a sa place. Donc les quatre membres étant sollicités, il est intéressant, je pense que les auditeurs seront intéressés de savoir qu'à chaque membre correspond une voix particulière. Je vais installer un tempo à la grosse caisse. Je suis au pied droit. Maintenant je place la charle au deuxième 4, 2 et 4, c'est-à-dire au pied gauche, je place la main droite sur la cymbale. Je place maintenant la main gauche. Et maintenant, je vais chanter chaque membre. Boum, 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 pour la grosse caisse. Maintenant, je vais chanter la main gauche, c'est-à-dire la partie de caisse claire. Maintenant, je vais chanter la partie de charleston, c'est-à-dire la partie de pied gauche. Tic, 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 tic. Maintenant, je vais chanter la partie de cymbale, c'est-à-dire la main droite. Tic-tiding, 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 tic-tiding. Thank you.
Ah, les ballets incroyables de l'immense Art Blakey, car jouer le rythme, nous expliquait Georges Pachinski, eh bien, c'est tout simplement jouer, et Art Blakey fait partie, avec ses Jazz Messengers, eh bien, des groupes, des personnalités qui ont réussi à, d'une certaine manière, instaurer la place du batteur comme celle de la place, pièce primordiale. Art Blakey, il est celui qui va lancer un mouvement musical qui va tout changer dans le jazz, dans le rythme et peut-être même dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire le bebop, plus tard le hard bop. Tout cela, donc, on le doit à cette figure. Car oui, à partir de la matrice originelle dont je parlais tout à l'heure, grosse caisse, caisse claire, cymbale, celle, la batterie rudimentaire du début des années 10, il va y avoir des générations entières de batteurs et de batteuses qui vont écrire l'histoire, d'une part en ajoutant des instruments, en modifiant le système même de la batterie, en le complexifiant la plupart du temps, mais aussi et surtout en modifiant le rôle que cet instrument va occuper dans l'économie globale de la composition des morceaux sur laquelle il est présent. Et Art Blakey est essentiel à ces deux niveaux, ça ne vient pas de nulle part, car Art Blakey, il est né en 1919 et avant de s'installer à la batterie, il a d'abord et avant tout été pianiste, une carrière qu'il a décidé d'arrêter parce qu'il y avait trop de concurrence. Mais quand il aborde la batterie, c'est bien avec un esprit de soliste, voire de mélodiste, qu'il entame une carrière qui va très vite s'incarner dans la création des Jazz Messengers, traduction, les messagers du jazz, formation qui va durer pendant plus de 30 ans. Dans son génialissime disque Orgy in Rhythm, on entend extrêmement bien ce qu'il apporte à la batterie. D'abord, il y apporte cette influence des percussions africaines qu'il va beaucoup écouter, mais aussi dans la place qu'occupe la batterie, c'est-à-dire presque la première. Blakey va commencer à faire jouer plusieurs grands musiciens qui ne sont absolument pas des batteurs. C'est à lui qu'on doit notamment la découverte de Wayne Shorter ou de Keith Jarrett, excusez du peu. Très belle relation de Blakey, notamment avec les pianistes. Blakey qui mène son ensemble de matière à soutenir le souffle de toutes les phrases musicales. C'est lui qui relance les chorus et c'est lui qui impose finalement ce style, avec d'autres évidemment du bebop. Le bebop qui se caractérise par un tempo souvent très rapide, qui repose sur des phrases extrêmement dynamiques, et là bien sûr ça vient du batteur, sur des grilles harmoniques qui sont extrêmement fournies. Blakey qui va influencer autant les batteurs de jazz évidemment que les jazzman tout court. On a dit que toute une génération de pianistes lui doivent beaucoup. Mais son son et la vision de la batterie qu'il impose vont influencer bien au-delà. On peut dire que l'afrobeat n'aurait jamais vu le jour sans l'existence de Blakey, tant sa figure a compté pour le batteur qui a tout simplement co-inventé le genre, l'immense, l'inénarrable, le grandiose Tony Allen.
Art Blakey, or Jazz Messengers, you know,
J'ai été très influencé par Art Blakey et les Black Messengers. C'est lui qui m'a fait comprendre comment la batterie doit sonner. Il a ce feeling. Et puis j'adore son utilisation de la charlotte. Je n'avais jamais entendu quelqu'un d'ici jouer comme ça. Quand je l'écoutais, je me demandais, mais il y a combien de batteurs là? Alors qu'il était seul. Je voulais jouer comme lui. Et pareil, avec Max Roach ou Elvin Jones. Même si je ne voulais pas les imiter, je voulais être moi-même.
Thank you.
La matrice rythmique inimitable de Tony Allen dans ce morceau Dog Eat Dog, l'un des morceaux au fleuve hein, qui marque le climax de sa collaboration avec Fela Kuti au sein de l'ensemble Africa 70 où tous les deux vont co-inventer hein, l'afrobeat. On l'a compris, la batterie jazz de Art Blakey, parce qu'elle renoue avec une tradition africaine et qu'elle émancipe rythmiquement et même symboliquement le batteur, a joué un rôle fondamental dans cette rencontre complètement folle entre le jazz et la musique africaine qui a représenté l'afrobeat. Mais aux côtés de Art Blakey, on trouve un autre batteur qui lui aussi co-invente le bebop et qui lui va ouvrir une toute autre voie à rebours de la connexion avec les rythmes africains ou amérindiens. Lui invente le shabada. Il s'appelle Kenny. Le shabada, c'est ce rythme qui consiste à accentuer le deuxième temps sur un tempo ternaire. Rythme qui va un peu bouleverser l'approche de la musique et qui ne s'ancrait dans quasiment aucune tradition percussive. Je laisse le génial batteur français de jazz, mais pas que, André Ceccarelli, vous présenter le shabada.
Le shabada, alors, qu'on attribue à notre illustre papa à tous, Kenny Clark. Alors, moi je ne suis pas historien, mais c'est vrai que la planète entière s'est jetée sur ce shabada qui est le fil rouge de tous les grands jazzmen et de tous les grands groupes. Alors, c'est un pattern inventé. Bon, il y a des trucs africains qui bon, après tout, toutes les musiques traditionnelles, bon, il n'y avait pas ça. Et là, tout à coup, lui, il est venu, il a fait Shabbat. Alors, je vais faire Charleston parce que c'est tout là, quoi. Tu vois, alors. Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, il y a l'école, bon. Quand j'étais gosse, j'écoutais souvent. Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait des batteurs qui faisaient. J'ai opté plutôt pour. Alors, ça, c'est la base, parce qu'après, ça doit bouger. Hein. Donc. Mais on n'a pas trouvé mieux. Voilà, mais alors après, effectivement, les jazzmen, notamment Elvin et tout ça, ont commencé à le torturer. Alors évidemment, ça c'est la révolution pour les gens qui avaient l'habitude d'entendre. Tout à coup, il y a. Il y a eu une espèce de lutte entre les modernes et les anciens, les boppeurs et les.
Thank you.
génial dialogue de la batterie d'Elvin Jones avec le sax de John Coltrane. Et ce piano Elvin Jones, batteur mythique qui manie à la perfection ce fameux Shabada et qui s'affirme comme une figure de batteur impressionniste. Mythique presque, c'est dans sa relation, sa rivalité, son émulation mutuelle avec l'immense Coltrane que son jeu de batterie va devenir ce qu'il est et influencer là où il a influencé, c'est-à-dire probablement tout le jazz mais aussi tout le rock. Étrange figure que celle d'Elvin Jones, très marquée lui aussi par Kenny Clarke, l'inventeur du Shabada, qui dit s'être autant formé en écoutant de la musique des Pygmées ou des Dogons que la musique classique occidentale, c'est-à-dire Bach, Mozart ou encore Stravinsky. Elvin Jones qui travaille comme un forcené, tout seul sa batterie pendant des années avant d'être introduit à un John Coltrane qui n'est pas encore très célèbre. Et c'est justement en interprétant une première version de ce titre, My Favorite Things, immense tube standard de jazz écrit par Roger Hammerstein, que Coltrane découvre le potentiel de ce jeune batteur, qui est très impressionné, désorienté hein, Coltrane par cette façon de jouer, mais qui apprécie son goût de l'exploration. Il l'intègre tout de suite à sa formation et c'est grâce à l'arrivée d'Elvin Jones que Coltrane rencontre le succès avec Coltrane Sound, Coltrane Plays the Blues, mais évidemment cette version My Favorite Things qui est un succès immédiat et propulse leur quartet sur le devant de la scène jazz. Relation extrêmement forte hein, entre les deux musiciens, ils se poussent chacun dans leur retranchement. On sait que les solos de Coltrane peuvent durer jusqu'à une heure, deux heures, qui sont très éprouvants physiquement pour Jones, qui est du coup d'une créativité absolue, même si il lui arrive de jeter sa caisse claire contre le mur dans les studios à la fin d'une séance de répétition, quand le morceau joue à durer déjà plus de 50 minutes. Elvin Jones qui a cette particularité que non seulement il est évidemment très présent, mais qu'il redéfinit encore une fois lui le rôle du batteur, qui à présent va suggérer le tempo plutôt que de le marquer, qui ne se contente pas de faire des accents rythmiques, mais qui participe de plus en plus activement à l'improvisation, à la matrice du morceau lui-même, caractéristique frappante notamment dans son utilisation de la polyrythmie et sa capacité donc à suggérer le rythme sans forcément le jouer, ce qui va beaucoup influencer évidemment André Ceccarelli mais aussi des rockers. On sait que Jimi Hendrix était un grand fan d'Elvin Jones. Et surtout, on retrouve sa trace chez un certain Charlie Watts, qui deviendra le batteur des Rolling Stones. Pourquoi ? Pourquoi ? Car, comme André Ceccarelli l'explique, il est capable de jouer, sans le dire, ce coup qui n'existe pas.
La vraie énergie, l'énergie de la batterie, parce qu'on dit, elle est contenue, elle n'est pas dans le volume sonore. On s'est trop caché pendant des années derrière un volume sonore énorme, avec des micros partout, des retours partout, des fois le cas, etc. On s'est trop caché derrière ce volume sonore en disant « Quelle énergie !» C'est de la fausse énergie. C'est de l'énergie fabriquée par le courant électrique, pour faire un peu d'humour. La vraie énergie, elle est contenue, elle est dans un coup qui n'existe pas.
A red
Le génial Charlie Watts, dont on entend la maîtrise, la modestie et la grande rigueur dans Painted Black des Rolling Stones. Charlie Watts qui nous a quittés l'année dernière et qui fait figure d'exception, d'une part parce qu'évidemment, il a été un des très très bons batteurs de rock, alors que l'histoire de rock ne compte pas tant que ça, tant l'histoire du genre elle-même est liée parfois à un certain niveau d'amateurisme. On aime beaucoup Ringo Starr, on sait combien il a été un fervent serviteur des Beatles, mais personne ne sait autant, évidemment, évanoui de beauté devant la beauté de ses solos que celle de Charlie Watts. Alors Charlie Watts, pourquoi ? Car c'est en réalité un homme qui s'est formé à la batterie de jazz. L'un de ses tout premiers groupes, les Joe Jones All-Stars, était bien un groupe de jazz formé, biberonné à l'écoute, évidemment, des grands premiers de la Nouvelle-Orléans. Grand admirateur, lui aussi, d'Elvin Jones. Un jeu donc de batterie rock chez les Rolling Stones qui n'a pas d'égal à la fois dans sa métronomie, son sens du détail et de la rigueur, ce qui a beaucoup porté l'aspect instrumental de la carrière des Stones, mais qui se distingue aussi pour une grande modestie à l'heure où certains batteurs étaient des vrais showman à l'ego surdimensionné. Charlie Watts a toujours brillé par sa modestie, sa rigueur. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui le pousse à lâcher le groupe dans la dernière partie de leur vie pour se concentrer sur des projets qui lui tiennent plus à cœur et qui, on peut le dire, tiennent en tout cas une plus grande approche rigoureuse de la musique. Charlie Watts, qui n'est pas le seul évidemment à être passé d'une batterie jazz à une batterie rock, en portant avec lui tous les éléments du jeu jazzistique, qui est sans doute probablement le plus complet. À son instar, on trouve une figure de femme extrêmement importante, c'est celle de Cindy Blackman. Cindy Blackman, jeune batteuse noire américaine, qui naît dans une famille de musiciens classiques, et qui tombe absolument amoureuse de la batterie alors qu'elle a 6 ans, qui se bat en tant que femme et en tant que femme noire pour pouvoir étudier la batterie, ce qu'elle fait au Berklee College of Music. Batterie finalement où elle réussit à s'imposer grâce à sa rencontre avec un grand batteur de jazz, Tony Williams, qui sera son mentor et qui la pousse à enregistrer un premier album en tant que leadeuse qui fait grand bruit dans le milieu du jazz en 1987. Oui, mais tout cela c'était avant qu'elle soit contactée par une connaissance justement d'université qui lui dit qu'un certain chanteur de pop-rock qu'elle ne connaît pas mais qui rencontre déjà le succès cherche une batteuse. Il s'appelle Lenny Kravitz et c'est ainsi que la carrière de jazz woman de Cindy Blackman va prendre un tout autre tournant, comme elle le racontait justement dans le podcast de son ancienne fac.
Hey, my friend Lenny called me and he's on the line. You want to talk to him?
Mon ami m'appelle et me dit que Lenny l'a appelé. Je lui ai donné mon numéro et Lenny a rappelé. Il m'a demandé si je pouvais jouer de la batterie au téléphone et j'ai dit oui parce que j'avais ma batterie moi dans mon salon. À la fin, il m'a dit « Hey, moi je suis à LA, est-ce que tu peux venir ?»« Bon, tu viens juste pour 2 jours, ça n'engage à rien. Tu viens jouer avec mes musiciens ?» Donc j'ai dit oui, j'ai pris quelques affaires. J'y suis allée, j'ai auditionné avec 40 batteurs. Et puis finalement, je suis restée 2 semaines. J'ai appris sa musique et j'ai participé au tournage d'une vidéo, un clip. « Are you going May away ?» C'était une super expérience. Après le tournage, il me dit « Est-ce que tu veux intégrer mon groupe ?» Il dit « Ok, alors on commence quand ?» Il dit « Bon, on a commencé il y a 2 semaines en fait. » Et ça a duré 17 ans. Et tous les musiciens du groupe ont commencé à ajouter leurs pattes. Parce qu'en fait, on a fait des tournées de près d'1 an et demi. Mais on le faisait avec tact, pour que ça ait du sens avec la musique de Lenny. Parce que moi aussi, en tant que musicienne, j'entendais beaucoup de choses qui venaient du jazz, et ça marchait musicalement. Ça sonnait bien dans mon oreille. S'ils avaient joué, ça aurait été génial. Mais justement, je m'en suis pas servi. Pas parce que je les entendais pas ou parce que j'aurais pas pu les jouer, mais c'est parce que ce n'était pas ce que cherchait Lenny. J'ai fait mon mieux pour apporter ma patte, toujours dans le cadre précis de la pop-rock de Lenny. La géniale batterie, solo de batterie extraordinaire de Cindy Blackman, hein, qui est devenue presque par hasard l'une des plus grandes batteuses de rock, puisqu'après sa très longue collaboration avec Lenny Kravitz, qui a souvent dit combien il lui devait beaucoup, notamment sur ce qu'il donnait sur scène, Cindy Blackman qui a ensuite rencontré et épousé Carlos Santana, qu'elle accompagne encore aujourd'hui en tournée. Cindy Blackman qui a réussi à s'imposer à la fois dans le jazz et dans le rock, chose encore difficile au milieu de ces années 80 puis 90 pour les femmes, bien sûr, car soit elles sont souvent écrasées par une grande misogynie qui reste malheureusement encore beaucoup de mise, notamment dans le jazz mais aussi dans le rock, soit qu'elles soient aussi, et c'est le cas pour une figure qu'on aime beaucoup, elles soient aussi très belles ou de bonnes chanteuses, ce qui en fait a revenu souvent à les évincer du rôle de batteur ou de batteuse qu'elles occupaient. Ça a été le cas pour une figure qu'on aime beaucoup dans la série musicale, l'extraordinaire Karen Carpenters, membre du duo The Carpenters avec son frère Karen Carpenters, qui était simplement une batteuse quand elle a commencé sa vie musicale. Elle accompagnait les compositions de son frère, mais d'une part, elle s'est mise à chanter car son frère, lui, ne trouvait pas sa voix. Pendant les deux premiers albums du groupe, c'est elle qui assure à la fois le chant et la batterie. Sa voix, qui avait des qualités hallucinantes, plus de 3 octaves et que Paul McCartney a souvent loué, et sa beauté vont faire d'elle, sans qu'elle le veuille vraiment, la leaduse du groupe. Elle n'aura plus le droit de toucher à la batterie pour le reste de sa carrière qu'elle finira dans la maladie, l'anorexie, elle qui avait toujours dit qu'elle aurait préféré rester dans le fond et qui ne se considérait toujours que comme une batteuse qui chante. Écoutez-la ici, on est dans le premier album des Carpenters, The Ticket to Ride, dans ce magnifique titre très court, très efficace, où sa batterie brille ainsi que sa voix, All I Can Do.
You lose it, you lose it, you
L'immense Jackie Motorik Lipset pour le groupe allemand Can, groupe survitaminé avec ce morceau qu'on adore, Vitamine C, qui fait partie de ces batteurs qui vont préfigurer l'évolution de la batterie, notamment vers le métal, hein, où les préparations vont évidemment changer, alors que les jazzmen vont garder leur balai, beaucoup de tomes hein, qui se multiplient avec la rockisation du rock et notamment l'arrivée du métal, beaucoup de double pédales, beaucoup de grandes vélocités. On aurait pu jouer évidemment bien des très bons batteurs de rock et de hard rock comme Dave Lombardo, mais ce qui nous intéresse ici notamment dans le jeu eh bien, de notre ami Jackie Motorik Leipzig, c'est ce qu'on a pu qualifier chez lui de fusion parfaite entre un vrai sens du funk et du rock, et je cite, une cérébralisation de la musique et du jeu de batteur dans le rock. C'est ce qu'on retrouve aussi évidemment à l'arrivée dans les années 90 d'un groupe qui est à la croisée du rock, de la pop et qui va tout réinventer avec une approche plus intellectuelle que jamais et qui doit beaucoup, on en parle peu, à son magnifique batteur Phil Selway. Je parle évidemment de Radiohead. Écoutez comme la batterie arrive avec intelligence, avec brutalité dans ce sublime Pyramid Song. Black Page Drum Solo, le solo de la page noire et non de la page blanche. C'est l'incroyable Terry Bozzio, une figure dont on avait envie de vous parler, qui fait partie des figures qui explorent le plus ce que peut la batterie aujourd'hui. Ici, vous entendez ce qu'il apporte à un groupe comme Frank Zappa dans ce morceau. Terry Bozzio qui se distingue par d'énormes préparations de batterie, des setups hein, évidemment, qui comportent de très nombreux cymbales superposées, des percussions qui sont accordées, qui lui permettent d'exhiber un jeu extrêmement virtuose et à la fois d'une très grande finesse. Ici, on a des sons qui rappellent évidemment le gamelan. C'est évidemment le propre de la batterie, ce système qu'on peut agrémenter, changer. On vous conseille évidemment d'aller explorer tout ce que les batteurs ont été chercher pour aller se retrouver du côté de musique indienne, mais aussi africaine parfois. Parmi les figures qu'on avait envie de vous faire entendre et qui nous paraissent les plus intéressantes dans la batterie d'aujourd'hui, dans le free jazz, il y a celle de Valentina Magaletti, qui elle aussi travaille beaucoup sur des batteries préparées et qui, d'une certaine manière, entend écrire sa propre histoire du free jazz avec ce morceau, une anthologie queer de la batterie. On se quitte là-dessus dans la série musicale. Queer Anthology of Drums de Valentina Magaletti, une découverte que je dois à la fine et délicieuse équipe de la discothèque de Radio France qui m'a largement aidée à préparer cette émission. Merci à eux, merci aussi évidemment aux équipes de l'INA pour ces pépites merveilleuses. Lou, que vous voyez attaché de production, qui a préparé cette émission avec moi. C'était Emmanuel Benito qui était à la réalisation, soutenu et accompagné par Camille Matti. Et évidemment au mixage, c'était le merveilleux Jacques Hubert. Vous pouvez bien sûr réécouter, retrouver cette émission et toutes les autres, nos autres séries consacrées à la clarinette, à la trompette, à l'orgue sur le site et l'application de Radio France. On vous y attend nombreux. Abonnez-vous.